France Inter.
Il est 5h12, les chroniques littorales sont remplies d'espions ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Minoz.
Un livre lève le voile sur un monde particulièrement discret et opaque, le renseignement.
Les initiés l'appellent le RANS, que l'on retrouve dans l'ouvrage de Bruno Fellini, l'Atlas secret du renseignement, 130 cartes et infographies pour découvrir cette face cachée du monde. Mais qui sait qu'il existe aussi un renseignement naval, Bruno Fellini?
Oui, et depuis toujours, parce que par opposition aux armées de terre, les marines opèrent à travers le monde, même en temps de paix. Et grâce aux eaux internationales, elles peuvent approcher toutes sortes de pays, aussi bien des alliés dont on veut être sûr qu'ils soient des alliés fidèles, que des pays rivaux. Il y a en particulier un certain nombre de points de passage, de détroits, où la marine peut frôler les installations militaires, des installations portuaires, capitales. Et donc, dans toutes les missions maritimes, il y a une dimension de renseignement. Alors déjà en mer, et surtout avec les moyens techniques actuels, et puis également à terre. De toute façon, on sait de longue date que dès qu'un navire est à terre, il y a sur le quai des gens qui travaillent pour divers services de renseignement, des gens qui sont là déjà pour regarder un petit peu les mouvements.
Des touristes.
Oui, c'est ça, des touristes qui prennent de jolies photos.
Mais dans toutes les marines du monde, il existe un service de renseignement spécifique.
Disons que la marine a une fonction de renseignement, et
c'est
qu'un
ça.
Un commandant normalement constitué est formé au renseignement. Les Américains, la composante navale est la plus ancienne. C'est l'ONI, hein, Office of Naval Intelligence, qui date de 1882.
Ah oui,
c'est avant le FBI, avant la CIA, bien avant. Le premier service de renseignement des États-Unis, chronologiquement, c'est le renseignement naval. Si on regarde dans les archives, en France, on a de très jolis manuscrits sous l'Ancien Régime. Des gens qui traînent dans les ports, des gens qui font boire les marins dans les tavernes pour leur tirer un petit peu les vers du nez, eh bien, font de très jolis courriers au ministère de la Marine pour indiquer combien de canons, quelle destination, quelle provenance pour les navires qui transitent dans toutes les zones portuaires importantes.
Alors Bruno Fellini, y a-t-il des bâtiments de guerre dédiés au renseignement?
Oui, par exemple, pour la France, on pourrait citer le Dupuis de l'Aume, hein, c'est un secret de Polichinelle. On le repère assez bien parce que c'est un bateau qui est coiffé de radomes. Vous savez, ces espèces de sphères qui ressemblent à des balles de golf géantes et qui en fait dissimulent des radars. En fait, sur un navire de cette sorte, plus de la moitié de l'équipage, ce sont des ingénieurs, des spécialistes, des interceptions, des captations, sont des longues oreilles, si l'on veut. Et puis n'oublions pas, il y a aussi l'aéronaval, c'est-à-dire que la marine avec les groupes aéronavals, eh bien, peuvent aller assez loin et ensuite, avec des hélicos, avec des avions, faire au minimum de la reconnaissance, éventuellement du renseignement.
Et Bruno Fellini, dans votre Atlas secret du renseignement, vous avez consacré 4 pages à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire le Grand Orient de France et la Grande Loge de France. Pourquoi?
Oui, la Grande Loge Unie d'Angleterre également. Je dis bien que les obédiences maçonniques ne sont pas des services de renseignement.
Ah oui, quand même.
En revanche, elles constituent bien sûr des réseaux. Et il faut savoir que les grandes obédiences nationales ont généralement des ateliers, des loges à l'étranger. Et donc j'ai voulu cartographier la présence à l'étranger de ces grandes obédiences. Et c'est tout à fait intéressant parce que ça montre des affinités anciennes. Ça veut dire que si vous avez besoin de contacts discrets, ça peut être intéressant de passer par une implantation étrangère d'une obédience française pour nouer des contacts simplement,
ouais,
ou pour exercer de l'influence. Donc je pense que ça fait partie du sujet. Mais encore une fois, les obédiences maçonniques ne sont pas des services de renseignement. Elles n'ont pas vocation à cela. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir une dimension clandestine. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de pays où la franc-maçonnerie est interdite. Mais il existe des loges de mission, il existe des loges quasi clandestines, donc qui se réunissent soit dans des enceintes diplomatiques, profitant de l'extéritorialité. Donc ça, c'est intéressant aussi.
Et Bruno Fellini, si en plus dans le cocktail, on est agent de renseignement, marin et franc-maçon.
Alors là, c'est parfait, mais il y a des loges maritimes.
Merci à vous, Bruno Fellini. L'Atlas secret du renseignement est édité chez Grunt avec le Bureau des légendes. À demain, Mathilde Minoz.
À demain, José-Manuel Lamarque.